Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Narr3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, paru en 1970 aux éditions de Minuit, La Reproduction. Sous-titré « Éléments pour une théorie du système d'enseignement » est un essai de sociologie rédigé par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Dans le prolongement de Les Héritiers, le livre examine la manière dont le système scolaire contribue à la continuité des hiérarchies sociales, malgré les principes affichés de neutralité, de mérite et de recrutement ouvert. Les auteurs ne réduisent pas les écarts de réussite aux seules ressources matérielles. Ils analysent aussi la valeur inégale accordée aux dispositions culturelles, aux manières de parler, aux connaissances et aux attentes acquises dans les milieux familiaux. Leur ambition est plus large qu'une critique de la sélection scolaire. Ils proposent une théorie de la violence symbolique, soit la capacité de faire reconnaître comme légitimes des normes particulières tout en dissimulant les rapports de force qui les rendent dominantes. Dense et très conceptuelle, cet ouvrage demeure central pour la sociologie de la culture et de la pédagogie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le système scolaire transforme des privilèges sociaux en mérites individuels. La thèse directrice du livre est que le système scolaire ne se contente pas de mesurer des aptitudes déjà présentes. Il participe à la reproduction de la structure sociale en valorisant des ressources inégalement distribuées entre les groupes. Les élèves ne parviennent pas dans les classes avec les mêmes familiarités face au langage scolaire, aux œuvres reconnues, aux formes de raisonnement attendues ou aux usages légitimes de la culture. Or, ces acquis, souvent transmis dans la famille, peuvent être interprétés par les institutions comme des dons personnels ou comme le signe naturel du mérite. Cette opération est décisive, une inégalité sociale antérieure devient une différence de performance qui semble provenir de chaque individu. Les auteurs ne soutiennent donc pas que toute mobilité est impossible ni que le diplôme est dénué de valeur. Ils montrent plutôt que les règles apparemment universelles de la sélection fonctionnent dans un univers où les conditions de préparation sont très inégales. La gratuité de la scolarité et la possibilité formelle de concourir ne suffisent pas à garantir une égalité réelle devant les exigences scolaires, en reliant les trajectoires éducatives aux héritages de classe. Le livre déplace la question de la réussite. Il faut étudier les conditions sociales qui rendent certaines dispositions plus immédiatement rentables que les autres. Deuxièmement, la violence symbolique impose une culture particulière comme norme légitime. Le concept de violence symbolique donne au livre sa portée théorique la plus générale. Il désigne une forme de pouvoir qui impose des significations, des catégories et des valeurs sans recourir principalement à la contrainte physique. Dans le domaine scolaire, une culture historiquement associée au groupe dominant est présentée comme la culture légitime, universelle et désintéressée. Les élèves sont ainsi évalués à partir de normes dont les origines sociales restent largement invisibles. Les auteurs qualifient ce processus de doublement arbitraire. Les contenus et les manières légitimées ne découlent pas naturellement de la raison ou du mérite, tandis que le pouvoir qui les impose dépend de rapports sociaux qui ne sont pas reconnus comme tels. La force de cette domination tient précisément à sa méconnaissance. Enseignants, élèves et familles peuvent traiter les verdicts scolaires comme justes parce que les critères paraissent neutres. La violence symbolique ne suppose donc pas une manipulation consciente de chaque agent. Elle fonctionne par des institutions, des routines, des classifications et des attentes partagées. Cette analyse permet de comprendre pourquoi une institution qui élargit officiellement son accès peut continuer à produire des classements fortement liés aux origines sociales. Elle invite aussi à distinguer la légitimité institutionnelle de la neutralité effective de ces normes. Troisièmement, l'action pédagogique transmet un arbitraire culturel sous une apparence universelle pour Bourdieu et Passeron. Toute action pédagogique sélectionne et transmet une certaine culture. Le point essentiel est de savoir quelle culture est retenue, par quelles autorités et sous quelle forme elle est déclarée valable. Le livre nomme arbitraire culturel le fait que les savoirs, dispositions et pratiques enseignées ne sont jamais séparables des conditions sociales et historiques de leur légitimation. Employer le terme arbitraire ne signifie pas que les connaissances sont inutiles ou dépourvues de cohérence. Cela signifie que leur consécration comme référence obligatoire ne peut être expliquée par leur seule valeur intrinsèque. L'institution scolaire tend toutefois à présenter ses exigences comme universelles, ce qui masque leur affinité avec des formes culturelles déjà plus proches de certains milieux sociaux. L'autorité pédagogique rend cette transmission efficace car elle confère au contenu enseigné une force particulière de reconnaissance. Les règles de langage, les manières de rédiger, la relation au texte ou les critères du bon goût deviennent alors des objets de jugement scolaire. Cette perspective éclaire les difficultés rencontrées par des élèves qui doivent apprendre simultanément des savoirs et les codes implicites permettant de les mobiliser de façon reconnue, elle évite une explication psychologisante de ces écarts en les rapportant aux modalités sociales de la transmission culturelle. Quatrièmement, le travail pédagogique installe durablement des dispositions compatibles avec l'ordre social. La reproduction ne repose pas uniquement sur des examens, des orientations ou des diplômes. Elle suppose un travail pédagogique prolongé qui forme des dispositions durables. L'institution organise des rythmes, des classifications, des exercices, des sanctions et des formes de reconnaissance qui enseignent à la fois des connaissances et une certaine relation légitime au savoir. Cette durée est essentielle pour devenir efficace. Les normes ne doivent pas seulement être comprises, mais incorporées dans des habitudes de perception et de conduite. Le livre analyse ainsi la pédagogie comme un processus de socialisation, dont les effets dépassent les contenus explicites des programmes. Les individus apprennent aussi à se situer face aux autorités, à anticiper les jugements et à considérer certaines ambitions comme réalistes ou irréalistes. Les différences de familiarité avec la culture scolaire influencent alors non seulement les résultats, mais aussi le sentiment de compétence, les choix de parcours et les manières de recevoir les évaluations. Cette analyse ne décrit pas des sujets entièrement passifs. Elle met en évidence le poids des conditions institutionnelles dans la formation des attentes et des limites que chacun peut s'imposer. La notion de travail pédagogique permet donc de relier les mécanismes quotidiens de la classe à la persistance des différences sociales sur plusieurs générations. Elle montre que la sélection est aussi préparée par une longue production de dispositions. En dernier lieu, les titres scolaires légitimant les classements en leur donnant la forme de compétences, le diplôme occupe une place stratégique dans le raisonnement des auteurs. Il certifie des compétences et ouvre des possibilités de positionnement social. Mais il contribue aussi à rendre les inégalités de trajectoire acceptables en les traduisant dans le langage de la qualification. Les différences de capital culturel et de conditions de scolarisation se trouvent converties en distinctions entre niveaux, filières et titres. Une fois cette conversion accomplie, les hiérarchies paraissent résulter de performances objectivement constatées plutôt que de ressources inégalement héritées. Le système scolaire possède ainsi une efficacité spécifique, il produit des verdicts officiellement impersonnels, dont la reconnaissance peut être partagée même par les personnes désavantagées par ces verdicts. Cette légitimation ne rend pas le diplôme fictif. Au contraire, sa force vient de son rôle réel dans la distribution des positions et des chances. Le livre conduit donc à examiner les procédures par lesquelles les institutions définissent les compétences reconnues et les conditions nécessaires pour les acquérir. Cette perspective reste utile pour analyser les débats sur la massification scolaire, les filières, la sélection et la valeur des certifications. Elle impose cependant de ne pas confondre hausse du niveau de scolarisation et disparition automatique des écarts sociaux. Lorsque les titres se diffusent, les mécanismes de différenciation peuvent se déplacer vers les parcours, les établissements ou les formes de capital culturel les plus valorisées. En conclusion, la reproduction s'adresse en priorité aux étudiants, enseignants, chercheurs et lecteurs qui souhaitent comprendre les liens entre éducation, culture et inégalité. Sa lecture demande une attention soutenue, la démonstration est abstraite, le vocabulaire est construit avec précision et le livre ne propose pas un programme immédiat de réforme. En retour, il fournit des instruments d'analyse durable pour interroger les évidences du mérite scolaire, de la neutralité des évaluations et de la culture légitime. Il aide notamment à observer ce qui demeure implicite dans une institution, les codes de langage, les attentes comportementales, les formes de familiarité culturelle et les conditions inégales de leur acquisition. Par rapport à des enquêtes centrées seulement sur les écarts de revenus ou sur les résultats aux examens, cet essai se distingue par son ambition théorique. Il explique comment une institution peut exercer une domination efficace précisément en se présentant comme universelle et impartiale. Sa notion de violence symbolique permet en outre de relier le monde scolaire à des mécanismes plus larges de légitimation sociale. Le livre peut susciter des discussions sur la place accordée aux transformations historiques, aux résistances et aux mobilités individuelles. Toutefois, cette tension fait aussi son intérêt intellectuel, il oblige à examiner les conditions collectives derrière des trajectoires souvent racontées comme strictement personnelles. Pour qui veut analyser les inégalités sans les réduire à des défauts individuels, il reste une référence structurante. Si vous souhaitez soutenir Pierre Bourdieu, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.